conséquent, j'espère que certains d'entre vous, ceux surtout qui lisent l'anglais, peuvent aller mettre le nez dans cet ouvrage excellent qui les initiera d'abord à toute la problématique de la pensée sauvage, comme nous avons dit, de la pensée qui relève de l'oral, de la non-écriture, des sociétés sans écriture, tout ce que nous avons dit la dernière fois, et puis les initiera aussi à la méthode ethnologique pour étudier ce type de société, puisque ces sociétés n'écrivent pas, on ne peut pas les étudier à travers des documents, il faut aller vivre sur place, parmi les populations. L'auteur, qui est un Américain, a passé 25 ans au RIF pour faire cet ouvrage. Je vous dis cela pour votre édification et pour savoir ce que certains hommes ou femmes investissent d'efforts pour la connaissance, uniquement pour connaître. Il pouvait faire toute autre chose, c'est un Américain, et bien il a fait ça par goût et par intérêt pour la connaissance anthropologique. Et il est souhaitable que des Maghrébins nombreux, qui eux n'ont pas besoin de s'expatrier mais sont chez eux, puissent profiter de ce qu'ils sont du terroir, ou bien des Libanais, ou bien des Syriens, ou bien tout ce que vous êtes ici, puissent profiter de ce qu'ils sont chez eux pour faire les mêmes études, rien ne les en empêche, et ce sont des études absolument essentielles pour une connaissance objective et exhaustive du monde arabe tel qu'il est, et non pas du monde arabe présenté artificiellement sous l'angle exclusif de la culture savante, qui est une culture qui a toujours été, et jusqu'à présent, une culture minoritaire. Ça n'est pas particulier au monde arabe, ça se trouve partout. En France, il y a aussi une culture savante qui est réservée aux gens cultivés qui viennent à l'université, et tous les Français ne vont pas à l'université. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut commencer donc par essayer d'avoir une idée de la structure sociale des sociétés archaïques, que nous soyons en Arabie, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak, au Maghreb, toute l'ère recouverte par le fait arabe que nous étudions, eh bien, nous avons affaire à des structures tribales. L'unité d'organisation de la société, c'est la tribu. Et cela est demeuré le fait social fondamental dans toutes ces sociétés que je viens d'énumérer. Et c'est seulement depuis les années 50 que les structures tribales, qui remontent très loin dans le passé, bien avant l'islam, ont commencé à se déstructurer, à se fissurer à cause de l'intervention de phénomènes sociaux et économiques nouveaux, et en particulier à cause de l'intervention du phénomène urbain et de l'économie urbaine moderne qui provoque les déplacements de population que vous connaissez, etc. À ce moment-là, les tribus, dans leur structure traditionnelle, se fissurent ou se s'éparpillent, mais nous pouvons faire une étude de l'émigration des populations tribales vers la ville. Si par exemple vous étudiez la structure des quartiers de Rabat, des quartiers de Damas, des quartiers de Beyrouth, des quartiers de Jeddah, vous constatez qu'il y a une tendance à la reconstitution des clans à l'intérieur de ces villes. Et la solidarité tribale, ce que l'on appelle la asabiyya en arabe, la solidarité tribale continue de jouer dans toutes les activités sociales et dans les restructurations des groupes sociaux à l'intérieur des milieux urbains. Alors, ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est que nous qui voulons étudier la pensée arabe, il s'agit de savoir au départ que cette pensée concerne une population extrêmement large, extrêmement vaste, et non pas simplement la population des villes. Et il faut savoir que le mode de culture et de pensée de ces populations est un mode qui va subsister malgré l'intervention de l'islam et malgré l'intervention de la culture savante que nous allons bien sûr étudier et aborder ensuite. Le phénomène de la jahiliya, dont nous avons dit un mot la dernière fois, est celui précisément de toutes ces sociétés que nous pouvons observer encore aujourd'hui. Cette structure que nous avons ici et que vous pouvez encore aller observer si vous faites un voyage dans le Rif marocain, mais que vous pouvez également observer dans d'autres régions du Maghreb ou dans d'autres régions de Libye ou d'Égypte, etc., c'est une structure à cinq paliers, comme vous voyez, à cinq niveaux. Le niveau le plus élevé, ou l'unité sociale la plus large, et l'unité autonome, c'est celle de la tribu, al-Qabila. Alors vous verrez, je vous renvoie à l'encyclopédie de l'islam, article Qabila. En même temps, vous faites une petite bibliographie pour approfondir ces questions-là, car je ne peux pas tout dire, hélas, dans une heure. Alors la Qabila, ici, en question, elle s'appelle Ayit Wariara, comme la Qabila de Quraysh à la Mecque. Tribu du prophète, dont est issu le prophète, s'appelle Quraysh, c'est exactement la même chose. Et Quraysh se subdivise en clans larges, en clans moins larges, et en sous-clans, puis en famille. Alors, les clans larges, la première grande subdivision, c'est d'abord deux clans, et cette subdivision se fait par la progression démographique à l'intérieur de la tribu, parce que la tribu se définit en tant qu'unité sociale à alliance endogamique, c'est-à-dire où se pratique un mariage endogamique. Endo, c'est-à-dire à l'intérieur. Et gamos, la femme, on prend la femme à l'intérieur de la tribu. On se marie à l'intérieur de la tribu. On ne se marie de tribu à tribu que pour faire des alliances politiques de tribu à tribu. Et c'est assez exceptionnel parce que ça pose des problèmes. Chaque tribu étant une unité sociale autonome qui a un terrain de parcours pour ses troupeaux et pour sa vie pastorale ou sa vie agricole selon le lieu où l'on se trouve. Ici c'est des montagnards, donc ce sont des sédentaires, pas nécessairement des nomades. Mais vous voyez que la structure est la même. Et il y a une subdivision donc en clans, à mesure que la tribu s'élargit. C'est ce clan-là qui se subdivise d'abord en deux, c'est pour cela que j'ai relié les deux ici. Mais celui-ci est un clan où il y a eu une certaine prolifération, une augmentation démographique, et une subdivision, c'est-à-dire que les Hari se détachent de leur clan originel pour faire un début de clan qui peut devenir lui-même assez puissant et il peut se développer des inimitiés entre eux, et ces inimitiés sont liées à des rapports de puissance, à des rapports de pouvoir, à des rapports de force. Et ces rapports de force ont pour enjeu le territoire, la possession du territoire. Parce que c'est le territoire, pour toute cette société, qui est la source essentielle de vie. Il n'y a pas d'industrie ou de mine à exploiter ou de pétrole ou de quoi que ce soit. Nous sommes encore dans une civilisation rurale et pastorale. Donc l'enjeu de la lutte, c'est le territoire, et le territoire, c'est l'attribut essentiel de la puissance. Vous avez donc une subdivision de chaque grand clan en deux sous-clans, comme ici, et nous avons une division généralement en tout cas au Maghreb, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie qu'au Maroc, il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais ça n'est pas la peine et nous n'avons pas le temps, la tribu se divise en 5 grands clans. Et alors ici, vous remarquez la cinquième subdivision qui s'appelle Imrabdan et que j'ai noté avec des traits interrompus. Autrement dit, ici, nous avons un groupe qui, au point de vue tribal, de la définition endogamique de la tribu, c'est-à-dire d'une reproduction et d'une descendance, d'un nasab à l'intérieur de la tribu, ce groupe-là ne descend pas de la tribu éponyme, c'est-à-dire de la tribu originaire. Ce sont des marabouts qui viennent de l'extérieur et qui viennent s'installer dans le territoire de la tribu parce que, en vertu, et ceci après l'islam, en vertu de leur connaissance religieuse, ils vont jouer un rôle pondérateur, un rôle de médiateur entre les clans qui sont en compétition. Et vous voyez comment la sainteté ou le pouvoir religieux va s'introduire dans ce système pour le réguler et pour empêcher la asabia, c'est-à-dire les oppositions constantes entre les divers clans, au nom de la religion, mais en réalité, Imrabdan joue un rôle politique fondamental. Et voilà pourquoi ils sont de la tribu, mais en même temps, au point de vue nasab, au point de vue généalogique, ils ne descendent pas de l'ancêtre éponyme de la tribu. Et partout, dans chaque tribu, vous trouvez ainsi un cinquième élément, un cinquième groupe qui est constitué toujours par les Imrabdan dans tout le Maghreb, et les Imrabdan ont toujours cette même fonction et cette même origine qui est religieuse. Alors vous avez ensuite des subdivisions en sous-clans. Par exemple, cette tribu, l'auteur a dénombré en tout 88 subdivisions, et l'on aboutit à la famille patriarcale qui est déjà une unité parfois assez large qui peut atteindre 20, 30, jusqu'à 50 membres, une famille patriarcale. Voilà une idée, j'espère, assez claire de ce qu'est la structure sociale. Il faut se souvenir de cette structure pour comprendre, par exemple, ce que votre professeur d'histoire vous dira, par exemple, des luttes pour l'accession au pouvoir en islam après la mort du prophète. Pourquoi les luttes entre les califes? Pourquoi Omar est-il assassiné? Pourquoi Othman est-il assassiné? Pourquoi Ali est-il assassiné? Pourquoi Muawiyah, etc. Et les luttes entre le pouvoir de l'État omeyyade et puis les oppositions. Pourquoi Hussein est-il assassiné? Pourquoi la dynastie abbasside succède? Pour des raisons de lutte tribale et de asabiya qui est toujours vivante et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Rabat ou Marrakech ou Alger, etc., aujourd'hui, avec l'émigration des populations et la tendance des clans à se reconstituer dans les milieux urbains nouveaux, de la même façon, lorsque Damas a été érigé en capitale par Muawiya, vous pensez bien que les tribus, avec leur solidarité traditionnelle, se sont reconstituées dans la capitale, et le jeu des Asabiya commande l'exercice du pouvoir et la transmission du pouvoir, et commande par conséquent tout le fonctionnement de la société. Voilà une chose qui est absolument de base, qui est essentielle, qu'il ne faut pas perdre de vue, et vous voyez pourquoi je commence par placer la base dans le cours au lieu de commencer par le toit, car commencer par le toit aurait consisté à vous dire le Coran est intervenu, il a dit telle et telle chose, des choses tout à fait formidables, et puis on a constitué un califat, etc. Mais je mets des tuiles sur le toit, un toit qui n'a pas de fondation. Alors que si je commence par la base, nous allons voir le Coran lui-même surgir de cette base. Car il a surgi de cette société. Et il a surgi au sein des conflits de cette société et au sein d'un conflit majeur qui a duré pendant des siècles, et en tout cas jusqu'au 10e siècle au moins, entre les Banu Soufiane et les Banu Hashim. Et jusqu'à présent, on parle des Hashimites en Jordanie. Allez-y voir ce que ça signifie.
On dit même que Hassan est descendant de...
Et jusqu'à présent, on dit que Hassan est descendant des Banu Hashim, des Quraysh. Autrement dit, le phénomène du nasab, de la généalogie, est tout à fait fondamental pour déterminer l'appartenance tribale, c'est-à-dire pour déterminer l'appartenance politique et sociale. Et la lutte entre les Banu Soufiane et les Banu Hashim se traduit par l'accession de Uthman au pouvoir après Omar qui a été assassiné, je vous le rappelle, et Uthman lui-même qui appartient au Banu Soufiane sera assassiné et Ali va succéder, et Ali appartient au Banu Hashim, mais Ali ne restera pas longtemps, il sera assassiné et remplacé par Muawiya qui appartient au Banu Soufiane, et la dynastie Umayyad qui appartient au Banu Soufiane va être éliminée. Elle a certes duré pendant un siècle, c'est pas mal, c'est un succès. Mais ça va repasser au Banu Hashim avec les Abbasides. Vous voyez l'importance des clans et l'importance de la Asabiya. Alors ceci a été parfaitement expliqué déjà au XIVe siècle par l'auteur que vous connaissez, enfin certains d'entre vous le connaissent, Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui est un historien sociologue du XIVe siècle, un maghrébin, a déjà expliqué les mécanismes de fonctionnement de la société arabe, mais d'une société arabe justement qu'il a eu le mérite de ne pas analyser seulement avec les schémas islamiques. Il a eu le mérite de mettre en relief le concept de Asabiya, c'est lui qui l'a mis en relief. Il parle de la Asabiya parce que le concept de Asabiya est un concept de portée anthropologique. Ce n'est pas un concept religieux. C'est un concept qui commande le mécanisme des sociétés. Et c'est là son mérite. Parce qu'il nous donne une clé, un principe explicatif pour l'évolution politique que nous enregistrons en regardant simplement la succession des dynasties. Lorsque vous étudierez un petit peu, je ne sais plus dans quelle UV, l'histoire du Maghreb, vous verrez comment les dynasties, justement, du XIe au XIVe siècle, se sont succédées les unes des autres, à peu près au bout de une centaine d'années, c'est-à-dire trois générations, comme a dit Ibn Khaldoun. Ça, c'est un processus compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Oui.
Comment concilier alors ce principe de la Asabi avec le principe érigé par Marx, à savoir la lutte de classe, l'histoire de l'humanité n'a été qu'à seulement pour l'histoire de
classe. Ah oui, mais c'est la lutte de classe, la notion de classe, elle est très difficile à appliquer d'abord aux sociétés dont nous parlons. Je ne pense pas. Pas à ces sociétés-là, il y a d'autres unités et d'autres principes de formation des unités sociales. Et le principe de formation des unités sociales, en particulier dans la société bédouine, le principe d'unification, c'est un principe, je dirais, écologique, c'est-à-dire le rapport de l'homme au milieu. C'est le milieu qui commande impérativement la Asabiya, la conservation de la Asabiya, le culte de la Asabiya. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un désert et que la vie dans le désert est tout à fait précaire. Elle est soumise au climat qui, comme vous le savez, est un climat très difficile. Les pluies sont très capricieuses, elles n'arrivent pas toujours. Et lorsque, par exemple, il y a la sécheresse, eh bien c'est là que les conflits entre les clans deviennent extrêmement aigus. Il ne faut pas vous imaginer, bien sûr, que cet état de conflit et de compétition est un fait de race. Attention! Ça n'est pas un fait de race, c'est un fait écologique, c'est-à-dire de rapport de l'homme à son environnement. L'homme se bat avec son environnement et il est commandé par son environnement. Et il met en place des structures de fonctionnement, des mécanismes de fonctionnement sociopolitiques qui sont en relation avec les impératifs de son environnement. Et voilà pourquoi, dans cette société, nous allons avoir, outre cette structure sociale que je viens brièvement, trop brièvement hélas, de vous décrire, nous sommes pressés, il va s'ajouter ce qu'on appelle un code de l'honneur. Et alors, avec l'étude du code de l'honneur, nous abordons l'étude de la pensée de cette société, car elle a une pensée, et une pensée organisée. Vous voyez, je veux absolument réagir contre l'idée que ce monde, n'est-ce pas, complètement arriéré, primitif, etc., el badia ou l'arabe, n'est-ce pas, il n'y a rien à y voir, c'est fini. Hein?
Est-ce qu'on peut pas juger une civilisation?
Eh oui, vous dites ça comme ça, mais vous savez, la littérature dont vous disposez, là, c'est plein de schémas qui sont malheureusement très, très anciens et qui datent du 19e siècle et même d'avant. Alors, le code de l'honneur qui régit cette société, c'est le code de ce que l'on appelle al-irb. Al-irb. Al-irb est un mot technique qui a un article dans l'encyclopédie de l'islam. Quand quelque chose a un article dans l'encyclopédie de l'islam, c'est-à-dire que c'est un terme de civilisation, c'est un terme essentiel. Alors, autrement dit, chaque fois que je vous donne un terme comme cela, je ne devrais pas chaque fois avoir le souci de vous dire « faites une fiche, encyclopédie de l'islam, etc. » C'est tout à fait fatigant. Normalement, terme de civilisation, vous le notez. Je vous ai dit au début comment il faut se servir de l'encyclopédie de l'islam. Vous faites une fiche à l'aide de l'article. Mais l'article, je vous avais dit, vous donne une bibliographie. Et à l'aide de la bibliographie, vous pouvez élargir votre information. Et ici, si vous n'étiez pas nombreux, j'aurais fait faire un exposé sur la notion de herbe, d'après, par exemple, une analyse qui a été faite par un auteur égyptien qui s'appelle Bishr Faris. C'est lui d'ailleurs qui a fait l'article sur le herbe. Il a fait un livre assez ancien, mais enfin on peut encore s'en servir, surtout pour notre usage à nous, qui s'appelle l'honneur chez les Arabes. L'honneur chez les Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire, l'honneur chez les Arabes? Eh bien, l'honneur chez les Arabes, c'est en réalité un code de fonctionnement éthique qui traduit les rapports de compétition dont je viens de vous parler entre les tribus. En effet, le code de l'honneur insiste sur une opposition fondamentale. L'opposition fondamentale qui est faite de Mahassin et Mathali.
J'ai appris n'importe comment
traduit
les rapports de compétition.
Les mahasin et les mathèles, ce sont deux termes techniques. Oui, techniques, parce qu'ils désignent des thèmes littéraires. Ce sont des thèmes littéraires qui sont constamment et régulièrement traités dans toute la poésie arabe. Dites pré-islamique, mais qui continue de l'être encore jusqu'à Mutanabbi et même au-delà. qu'est-ce que c'est que les mahasin et les mathali? Mahasin, c'est un pluriel qui veut dire les titres de Hassan. Hassan, beau, ce qui est beau, ce qui est bien, le bien, ce sont les titres de vertu. Les mahasin, les titres de gloire et de vertu. Et parmi les mahasin, nous allons trouver justement des vertus comme le courage, shaja'a, comme l'hospitalité. Non, l'hospitalité, al-diyafa, awil karam. Et vous avez aussi la muru'a. La muru'a, c'est encore un terme très compliqué, en fait, qui a beaucoup de connotations éthiques. Ça connote toutes les valeurs de l'âge mûr. Les valeurs que l'homme qui a atteint l'âge mûr doit posséder pour jouer dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu, le rôle qu'il doit jouer. Car la survie et la puissance de la tribu dépendent de quoi? De la valeur guerrière, du courage, par conséquent, de la fidélité des hommes de la tribu. Et ceci vous explique le statut de la femme et le statut de l'homme à l'intérieur de la tribu. Et ceci va subsister longtemps, et ça subsiste encore de nos jours. Autrement dit, voilà un exemple au sujet de la répartition des fonctions et des statuts des sexes, masculin et féminin, dans une société de ce type. Voilà un cas où l'islam a certes amélioré certaines choses, mais il en a aggravé d'autres en ce qui concerne la femme. Alors, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Et alors, tout ceci, ces vertus-là, s'opposent aux matalib, qui sont les titres d'ignominie. Les titres qui discréditent l'homme. Par exemple, ce sont des titres exactement opposés à ce que je viens de dire. La lâcheté, qui s'oppose au courage. La couardise, la fuite dans le combat. La ladrerie et l'avarice, qui est le refus d'hospitalité. Et pourquoi l'hospitalité a-t-elle ce rôle important? Est-ce parce qu'on aime faire des grands repas comme ça, ou juste pour faire de l'hospitalité? Ou bien il y a une raison de solidarité qui est toujours liée à la vie. Supposez en effet un homme du clan 1 qui se trouve perdu dans le désert au cours d'un voyage, d'un déplacement, pris dans une tempête de sable, etc., avec tous les aléas du désert, là, il demande l'hospitalité, même si c'est un ennemi. S'il appartient à un clan ennemi, il y a une trêve, une houdna qui s'instaure. On accueille le voyageur, et vous trouvez Ibn Sabil dans le Coran. Vous voyez comment le Coran, comme je viens de vous dire, sort de la société. Ibn Sabil joue un rôle important dans le Coran. Il faut toujours l'accueillir et lui faire bon accueil. D'où qu'il vienne, il ne faut même pas lui demander d'où il vient. C'est le fils de la route, Ibn Sabil. C'est une métaphore. Ibn Sabil, le fils de la route. Celui que la route vous apporte. Alors il faut absolument l'accueillir. Alors ces mahasin et ces matalib, je vous dis, vous faites sans doute une UV de littérature en même temps que celle-ci. Alors dans l'UV de littérature, là, on vous parlera sûrement des mahasin et des matalib, puisque tous les poèmes, aussi bien anti-islamiques que après l'islam, sont construits sur cette opposition. Le poète chante les mahasin de sa tribu pour maintenir dans sa tribu la fierté Et donc, le courage et la tension vers le combat et la tension vers la défense solidaire de ses contributeurs. Et il dénonce au contraire les mathalib de la tribu adverse pour toujours, dans cette dialectique d'opposition, maintenir encore une fois la tension vers la puissance pour sa tribu et au contraire essayer de provoquer la défaite de la tribu ennemie. Vous voyez comment c'est ce code de l'honneur qui apparemment est un code éthique. Ce sont des valeurs que nous sommes portés à qualifier de valeurs éthiques. Effectivement, elles ont tout de même des connotations éthiques, c'est certain. Mais leur racine et leur enracinement, ce qui les commande, c'est la structure que je viens de vous dire et le rapport de ces hommes à leur milieu. Voilà ce qu'il faut retenir et ce qui caractérise fondamentalement cette société. Bien sûr, la vengeance fait partie de l'équilibre. Pourquoi la vengeance, effectivement, la nécessité de venger un membre de sa tribu, fait partie de l'honneur. Ce qui touche la femme, tout ce qui touche la femme sur la vie sexuelle, par exemple, c'est absolument tabou, ça fait partie de l'honneur. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, vous savez comment les femmes sont traitées pour tout ce qui touche justement ce qu'on appelle le hev. Mais on dit aussi en Proche-Orient le sharaf. Le sharaf, ça fait partie du sharaf. Tout ce qui peut toucher la femme en matière de sexualité, enfin de rapport illicite, touche l'honneur de la famille. Et par l'intermédiaire de la famille, touche l'honneur du clan. Et par l'intermédiaire du clan, touche l'honneur de la tribu. Mais quand on dit l'honneur, bien sûr, c'est ressenti comme une valeur, encore une fois, éthique. Mais en même temps, il y a un enjeu de puissance. Car on veille à ce que la femme n'aille pas dans un clan étranger, parce que la femme est source, elle est la source de la vie. C'est elle qui donne la vie aux hommes et aux femmes, bien sûr. Mais enfin, aux hommes qui, dans cette société, sont considérés comme l'élément indispensable, la force indispensable pour la survie. Et voilà pourquoi la vengeance est une règle absolue, et des vengeances durent pendant des années et des années, et parfois des générations. Parce que chaque fois qu'un clan perd un membre, il faut, pour rétablir l'équilibre de la puissance entre le clan qui l'a perdu et l'autre qui lui a fait perdre ce membre, il faut que l'autre le perde aussi, pour rétablir l'équilibre. Ces valeurs que je viens de vous donner très brièvement, nous allons les retrouver dans la pensée savante, lorsque nous étudierons en particulier l'éthique, la morale, chez les philosophes ou chez les juristes qui vont réfléchir sur les vertus éthiques et les vices. Et on opposera les vices et les vertus, mais avec une théorisation savante. On fera appel en particulier à la théorie aristotélicienne de la vertu et du vice. Mais nous allons voir que toutes ces vertus-là qui proviennent de la société, archaïque, vont être maintenues et elles vont être consacrées à la fois par l'islam lorsque le Coran interviendra et par la philosophie, la théorie philosophique chez les philosophes lorsque les philosophes se mettront eux aussi à construire leur théorie de la vie morale. Il faudra se souvenir de ceci. Mais plus largement maintenant, en ce qui concerne la pensée que nous pouvons qualifier de sauvage, encore une fois, au sens anthropologique, c'est-à-dire une pensée non codifiée, non écrite, mais vécue par tous les hommes qui appartiennent à cette société, tous les hommes et toutes les femmes qui appartiennent à cette société. Si vous lisez le livre auquel j'ai fait allusion, de, alors ce livre, je vous donne l'auteur pour que vous le connaissiez quand même, c'est... D.M. D.M. Deux prénoms. D.M. Hart. Alors, le titre du livre, c'est The, c'est en anglais, The Ayit Waryar. C'est écrit. Les Ayit Waryar. The Ayit Waryar of Moroccan Reef. Les Ayit Waryar du Reef marocain, en français. Études ethnographiques et historiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joint l'étude ethnographique et l'étude historique. Il y en a qui ne les joignent pas. Et ici, c'est intéressant. C'est édité à New York, mais vous le trouverez à l'École des langues orientales. Vous le trouverez. Et je crois que nous avons un exemplaire chez nous, ici. Alors, vous verrez... Vous verrez les chapitres que l'auteur consacre à l'étude de la vie culturelle et les représentations qui définissent le mode de pensée dans cette société. Bien entendu, nous allons employer pour définir ces réalités un vocabulaire qui va avoir nécessairement à nos oreilles des connotations péjoratives. Je le dis avant de prononcer ces mots pour vous mettre en garde. Et que justement, ces connotations péjoratives ne se précipitent pas dans votre esprit. Et je vous le dis aussi pour vous dire à quel point il est extrêmement difficile, justement, d'approcher l'étude de ces sociétés sans préjugés. Il suffit que je dise, par exemple, que la culture de ces sociétés est faite de pratiques de sorcellerie, de magie, de croyances, certains les qualifient de superstitieuses, ben vous voyez, tout ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire dépréciatif. Loin de nous, ces horreurs, nous les avons tous dépassées. C'est fini. Nous sommes des rationalistes, des scientifiques, et nous n'obéissons plus à ce genre de croyances complètement dépassées. Voilà. Comment fonctionne un exemple de fonctionnement de la culture savante et de la culture populaire? Les usagers de ces croyances, de ce que nous appelons les superstitions et les sorcelleries, ne les perçoivent pas de cette manière. Pour eux, ce sont véritablement des valeurs de vie, des valeurs de pensée, et ils les exercent tout à fait naturellement. Alors, il s'agit de voir comment, justement, ce que nous nommons la sorcellerie fonctionne dans ces sociétés sans porter de jugement de valeur sur cette sorcellerie ou sur ces croyances magiques ou ces pratiques magiques qui, encore une fois, définissent la pensée, le mode de pensée de ces croyances. De même aussi, en ce qui concerne les récits, les légendes, ce qui compose la littérature de ces sociétés, ce sont des récits, des contes qui subsistent. D'ailleurs, vos grands-mères, comme toujours, ce sont elles qui sont les mémoires fidèles justement de ces légendes, racontent toutes les légendes, mais ces légendes ont une fonction extrêmement importante, parce que ce sont elles qui enracinent le groupe dans une histoire mythique. Et l'histoire mythique pour le groupe est une histoire vraie. Ça n'est pas une histoire fausse. Alors vous voyez, nous changeons complètement de catégorie de pensée. Nous ne pouvons pas décrire et connaître ce monde de la pensée, cette vision du monde qu'ont ces hommes et ces femmes, si nous les abordons avec les catégories de la rationalité, qui nous est évidemment plus familière. Et justement, lorsque nous allons passer à l'étude de la pensée arabe savante, nous allons voir progressivement toutes ces légendes qui vont être filtrées, éliminées, reléguées en dehors d'une pensée qui va s'exercer sur le plan d'une rationalité de plus en plus poussée, mais qui elle-même d'ailleurs, nous allons voir, n'atteindra pas un degré de rationalité tel qu'elle puisse complètement se désolidariser de l'univers mental de la pensée sauvage. Alors tout cela, encore une fois, est toujours vivant. Vous pouvez le recueillir encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Si vous allez par exemple dans oui, au Maroc, mais aussi dans le sud tunisien ou dans le sud libyen, mais je pense en particulier à la ville de Marrakech, où il y a cette place extrêmement célèbre qui s'appelle Jemaa el-Fna. Ceux qui connaissent le Maroc, à Jemaa el-Fna, oui, Jemaa el-Fna, c'est une vaste place publique à Marrakech, où il y a en permanence une vie culturelle.
Comme
une vie culturelle en permanence, jour et nuit, sans arrêt. C'est un aspect typique de la vie culturelle dans ce type de société. Et comment se manifeste cette vie culturelle? Elle se manifeste par exemple par les meddah. Les meddah, ou le qassas. Le qassas. Celui, le conteur. Le conteur populaire. Le meddah. Ou bien les raouya, les roua d'autrefois, que nous allons retrouver quand on étudiera la pensée savante au 1er et 2e siècle de l'Égypte. Mais le meddah, ou le qas, c'est un personnage fondamental de la culture populaire. Parce que c'est lui qui connaît les récits dans lesquels le groupe reconnaît son identité, puise et affirme son identité. Et voilà pourquoi le meddah est toujours écouté. Et encore une fois, les jours de marché, pas seulement à Marrakech, les jours de marché dans toutes les villes d'Afrique du Nord, jusqu'à des temps récents, c'est en train de disparaître parce que maintenant, évidemment, le Maghreb est entré dans un âge, comment l'appeler ?
Modernisation.
Ah, je vous laisse le soin de le qualifier. Après tout ce que j'ai dit, d'après votre expérience et vos connaissances, je vous laisse le soin de lui donner un qualificatif. Enfin, il est entré dans un âge de transformation, pour employer un mot neutre. Un âge de transformation.
Pas d'évolution.
Parfois de bouleversement. Bien. Jusqu'à des temps récents, dans toutes les villes et les villes ou les villages et même les marchés des campagnes, les marchés ruraux, les jours de marché, le meddah ou plusieurs meddah tiennent leurs séances qui sont toujours achalandées et qui sont toujours suivies par un nombreux public. Si vous n'avez pas remarqué cela, c'est que vous êtes entièrement citadinisé et entièrement coupé de précisément les racines de ce que nous appelons la culture populaire, à condition d'attacher au qualificatif populaire une valeur non péjorative. Je le répète toujours parce qu'hélas, le mal est fait. Le mal est déjà fait. Alors vous avez aussi, outre les légendes, les contes et les récits, vous avez les chants et les danses, dans lesquels nous avons toutes les formes d'expression de l'âme populaire, de l'âme collective. Et c'est dans les chants et les danses que s'exprime la création artistique du groupe et que s'exprime également l'identité culturelle du groupe. Et ce sont des pratiques extrêmement vivantes. Elles sont d'autant plus vivantes que elles interviennent à toutes les célébrations. Or, les célébrations sont extrêmement fréquentes dans cette société. Vous savez, l'histoire de la fête, Elle a une histoire, la fête. La fête s'est transformée dans les sociétés. Elle n'a pas toujours occupé la même place. Aujourd'hui, il y a très peu de fêtes dans nos sociétés modernes. La septième année, l'entrée au coup de table, la circoncision, tous ces événements sont marqués par des fêtes, des célébrations, des cérémonies et des répétitions collectives. Alors vous voyez à quel point l'expression culturelle de l'âme populaire est exubérante et riche. Et vous voyez aussi comment ces expressions vont être progressivement refoulées, marginalisées, voire éliminées et remplacées par d'autres pratiques que vous connaissez. Vous qui êtes à l'université, vous appartenez aux cérémonies et aux manifestations, évidemment, modernisées. Alors il y a évidemment beaucoup de descriptions de ces cérémonies, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça n'est pas notre... ça pourrait être notre sujet. Vous voyez que si nous étudions tout ceci en détail, ça pourrait faire l'objet du cours pendant toute l'année. Et ça ne complète pas le programme, ça donne une base au programme. Et enfin, nous ne pouvons pas faire les deux à la fois. Et... je tiens cependant, encore une fois, à vous sensibiliser sur l'importance du problème, parce que lorsque nous allons passer à l'autre versant, qui est le versant de la pensée savante, bien évidemment, tout ceci, nous allons le refouler par la force des choses et par conséquent l'oublier. Mais je voudrais... Je voudrais vous dire maintenant quelques mots sur la façon de procéder pour maintenir la valeur de ces sociétés et de leur culture lorsque nous passerons à la culture savante. Pour cela, il faudrait essayer de redonner toute son importance à l'antinomie qu'Ibn Khaldoun a décrite entre Al-Havara, Al-Imara, Al-Mataniya, d'un côté,
plutôt Umran, il dit Umran. Voilà, il faut absolument recopier ceci et bien le souligner et l'encadrer.
Parce que ce sont des termes techniques, c'est un appareil conceptuel d'analyse.
Qu'est-ce que c'est VS?
Je vais vous expliquer. N'ayez crainte, je ne vous laisserai pas en panne. Havara, Umran, Madina versus, VS ça veut dire versus, en latin ça veut dire contre, opposé à, Badia, Rif, Ara. Arab, pas arabe, justement. Justement. Al-Arab. Oui. Alors, expliquons. Ça y est, expliquons. Havara. c'est la racine havar, qui veut dire être présent, être fixe dans un lieu. Le havara, c'est la sédentarité au sens propre, sédentarité, le fait d'être fixé dans un lieu, dans sa, pour sa vie, la vie d'une population. Et puis le umran, amara, ça veut dire remplir. Le umran, c'est la mise en valeur et le peuplement. Et les activités de mise en valeur et de peuplement. Donc des activités de civilisation, comme nous dirions aujourd'hui. C'est le terme technique d'Ibn Khaldoun. Al-Umran. Al-Umran al-Bashari, c'est l'activité de mise en valeur. De mise en valeur de l'environnement pour vivre et pour édifier une vie autant que possible qui progresse. Et puis, Al-Madina, c'est la cité, au sens grec, de la police. Police, pas la police municipale, ou la police grecque, P-O-L-I-S, au sens de la police dans la République de Platon, que les penseurs arabes, nous le verrons, ont reprise et sur laquelle ils ont également réfléchi. Le concept de cité est un concept d'analyse politique. Et le Umran, la Havara, sont liés à la cité. Et la cité est un milieu qui permet les activités de Havara et de Umra. En face de cela, en face de ces possibilités de vie dans un milieu déterminé, il est évident que les activités de mise en valeur tout en restant fixes, attachées à un terroir, ne sont possibles que là où il y a une terre productive que le paysan peut cultiver régulièrement et qui lui produit régulièrement. Donc ce type de vie-là est lié écologiquement parlant, ou géographiquement parlant si vous voulez, est lié aux parties du territoire qui sont cultivables, où la vie agricole est possible. N'oublions pas cela. Ce ne sont pas des concepts en l'air. Nous sommes dans une civilisation où, encore une fois, l'activité de production de masse industrielle par des usines, etc., qui provoque une certaine abstraction des choses, n'existe pas encore. La seule activité de production, c'est l'activité par la mise en valeur des terres. Et bien entendu, dans les villes, il y a les activités artisanales, bien sûr, mais ce sont des productions au niveau artisanal. Alors, en face de cela, nous avons Al-Badia. C'est le monde de la bédouinité. Le monde nomade. Alors, le mot rif, évidemment, je l'ai mis là, mais c'est assez discutable. On peut, si vous voulez, le mettre ici en point d'interrogation, parce qu'on peut tout aussi bien le mettre ici, selon le rif dont il s'agit. Le rif, normalement, c'est la campagne. Il n'est d'ailleurs pas utilisé partout.
Le rif et le badia,
c'est... Oui. Alors, il faut surtout retenir badia et l'arabe, qu'il faut différencier des arabes. L'arabe, ce sont les nomades. C'est la population arabe nomade qui est distinguée des arabes, qui est la population arabe citadine, donc sédentarisée. Alors, cette opposition est la valeur d'opposition entre deux types de civilisation, entre deux mondes. Comment ?
Au prochain, ils disent l'urbain.
Oui, dans le dialecte à l'actuel. mais c'est Ibn Khaldun là. Il dit l'arabe, il ne dit pas l'urbain.
Hein?
Parce que le Coran, il parle des.
Oui,
parce qu'il parle arabe, il parle des arabes de la Mecque. Il ne parle pas des arabes de la Badia, justement. Et ici, encore une fois, je vous rappelle que c'est la terminologie d'Ibn Khaldun et que Ibn Khaldun essaye de mettre, de dégager des concepts d'analyse sociologique. Et il essaye de s'éloigner justement des connotations religieuses auxquelles notre ami veut nous ramener prématurément. Alors, essayons au moins de faire comme Ibn Khaldun. Ce sera déjà pas mal. Oui. Alors, l'importance de ceci, encore une fois, c'est qu'il va y avoir géographiquement contiguïté. Contiguïté spatiale, contiguïté géographique. Entre deux types de civilisations, l'une nomade, caractérisée par le déplacement, la mobilité, l'absence de maison fixe. Et Ibn Khaldun utilise une image qui a été retenue par beaucoup, en disant que les Bédouins, lorsqu'ils veulent, quand ils plantent leur tente quelque part, ils trouvent trois pierres, là, enfin, ils manquent de pierres pour faire mettre leur marmite, ben, ils sont capables d'aller les prendre dans une maison, je sais pas, ils prennent des pierres parce qu'ils ont besoin de ça, ils s'en fichent de la maison. Eux, c'est la tente, demain ils partiront, ils veulent cuire leur soupe le soir et mettre leur marmite sur un trépied. Alors ils font trois pierres pour faire un trépied à leur marmite. C'est une image bien sûr excessive. Mais pour vous expliquer comment fonctionne d'une civilisation à l'autre le rapport au milieu et la conception de l'existence. Et ces civilisations sont antinomiques. C'est-à-dire, elles se nient l'une l'autre. Et elles vont, par conséquent, se porter préjudice l'une à l'autre au cours de l'histoire. Si vous prenez le Maghreb, par exemple, ou Badiat Sham, et puis le nord de Sham, de la Syrie. Vous avez, vous passez d'une zone sédentaire, paysanne, où l'agriculture est possible, et même assez riche, vous passez au désert, à la Badia, au parcours, au nomadisme. Et si, du fait de la faiblesse de l'État, du fait d'un contrôle trop faible des populations nomades, ces populations remontent vers le nord, voilà l'agriculture sédentaire, voilà les activités de Umran dans la cité, remises en question, voire détruites par l'afflux des nomades. Et ceci s'est produit. Lorsque les Mongols vont arriver à Bagdad en 1258, eh bien, ils ne vont pas faire le détail, hein. Et lorsque les Banu Hilal, les fameux Banu Hilal, vont arriver en Ifriqiya et se répandre au Maghreb, dans un Maghreb justement qui avait été relativement citadinisé avec certaines activités de Umran, eh bien ils vont également provoquer un déséquilibre dans le rapport entre le monde du Umran et le monde de la Badia. Et c'est ce qui avait frappé Ibn Khaldun au XIVe siècle. Car au XIVe siècle, les résultats de cette rivalité et de cette antinomie s'étaient déjà développés depuis le XIe siècle, depuis 1050 que les Banu Hilal étaient rentrés en Afrique du Nord, et ils avaient déjà donné des résultats qui pouvaient frapper un observateur perspicace de la société maghrébine comme Ibn Khaldun. Et ceci a duré longtemps. Voilà donc, voyez-vous, deux types de civilisations, je le répète, qui vivent du fait de la géographie. Alors, pour vous expliquer davantage ceci, je vous conseille de lire le livre de Xavier de Planol, qui s'appelle « Les fondements géographiques de l'histoire de l'islam ». C'est très intéressant, car on ne pense pas à la géographie lorsqu'on parle des idées. Eh bien, moi, je vous enseigne la pensée islamique, la pensée arabe. J'essaye justement de vous montrer que cette pensée arabe se déroule sur une terre et non pas au ciel. Les fondements géographiques de l'histoire de l'islam. Livre qu'il faut absolument lire pour comprendre l'importance de cette opposition. Alors, à l'intérieur de ces deux oppositions, de ces deux univers, vous pouvez lire aussi un livre, s'il vous plaît, si la tension se relâche. Moi, je ne peux pas crier, hein, je crie déjà assez et ça me fatigue assez. Il y a donc ce livre, je vous conseille aussi un livre de lecture agréable, parce que c'est pittoresque, de Robert Montagne, qui s'appelle « La civilisation du désert ». La civilisation du désert. Vous voyez que le désert peut être appréhendé en tant que milieu de civilisation, et c'est effectivement très intéressant. Alors, dans... Dans le fond, à la fois géographique et socio-économique, que constitue la coexistence de ces deux univers, de ces deux types de populations, nous allons voir s'affirmer deux types de solidarité. Des solidarités que nous allons appeler permanentes, structurelles, et d'autres solidarités qui seront précaires, des solidarités précaires, c'est-à-dire qui durent peu. Voilà encore deux concepts d'analyse qui vont nous permettre d'expliquer le développement historique des sociétés, et par le développement historique des sociétés, ça va nous permettre de comprendre le destin de la pensée savante dans ces sociétés, car je ne perds pas de vue mon sujet. Il s'agit de savoir pourquoi, par exemple, à un moment donné, nous allons parler d'une pensée arabe qui va pratiquer l'ijtihad, c'est-à-dire la recherche intellectuelle et même la découverte intellectuelle, et puis à un moment donné nous allons parler du taqlid et de ralq bab l'ijtihad, de fameuses portes là qui se ferment et qui s'ouvrent. On ferme la porte de l'ijtihad, pourquoi est-ce qu'on la ferme? Voyez la manière stupide dont on présente les choses. On vous dit la porte de l'ijtihad est fermée, ralq bab l'ijtihad. Qu'est-ce que c'est que cette manière de parler? Il faut essayer de voir comment fonctionnent les sociétés. Et c'est le fonctionnement de ces sociétés qui va nous expliquer pourquoi, à un moment donné de l'histoire, effectivement, il n'y aura pas de pensée orientée vers la recherche et la découverte, mais une pensée répétitive. Et ceci s'explique par des raisons politiques, sociales, qu'il faut tout de suite mettre en place. C'est ce que je suis en train de faire, si vous ne le voyez pas encore. Bien. Alors donc, il faut retenir des solidarités permanentes, structurelles, et des solidarités précaires. Quelles sont les solidarités structurelles, permanentes? Eh bien, c'est la solidarité de la tribu. Je viens d'en parler. La tribu va traverser tous les régimes politiques, toutes les dynasties politiques, tous les types d'organisations, elle demeure la tribu, et c'est une solidarité par conséquent que nous pouvons qualifier de permanente. Bien avant l'islam déjà, jusqu'à maintenant, cette solidarité dure. Et cette solidarité permanente s'affirme au niveau de la tribu, au niveau du clan, et à mesure qu'on descend, elle s'affirme encore plus, évidemment, au niveau de la famille. Et ces solidarités seront d'autant plus durables que même les dynasties qui vont se former, les différentes dynasties qui vont se former, elles seront toutes influencées par le poids de telle ou telle tribu qui, à un moment donné, exercera la suprématie politique. En revanche, les solidarités précaires, ce sont les confédérations de tribus. Avant l'intervention de l'État islamique, il y a des confédérations de tribus. C'est-à-dire plusieurs tribus peuvent faire une alliance momentanée. Contre une autre alliance, justement, parce qu'une tribu toute seule, si elle affronte une confédération, ne peut pas se défendre. Alors, il y a à ce moment-là des alliances, des alliances qui sont des alliances temporaires. Ce sont des solidarités, vous le voyez, éminemment précaires, parce que une fois le danger passé, chaque tribu retourne à son autonomie. Mais parmi les solidarités précaires, il faut davantage insister sur les dynasties politiques. Depuis 632, la mort du prophète, jusqu'à nos jours, il y a eu une multitude de dynasties qui se sont constituées à travers le monde arabe. Ce ne sont pas seulement les Omeyyades, les Abbasides, etc. Déjà au temps des Abbasides, il y a eu des dynasties locales qui se sont constituées, comme les Hamdanides, comme les Bouyides, comme les Ptolomides, comme les Ayyubides. Tout ça, ce sont des tribus. Les Mérinides, les Almohades, les Saadiens, etc. Je peux vous dire les Wattasides, les Hafsides. Il y en a des dynasties. Et les Husaynides. Et tout ça, ce sont des solidarités précaires. Pourquoi ? Parce que les dynasties qui prennent le pouvoir politique dépendent strictement de l'exercice des solidarités permanentes des tribus. Et voilà pourquoi les dynasties vont chercher à s'appuyer sur les tribus les plus fortes pour essayer de proroger le plus longtemps possible leur pouvoir. Et ce mécanisme politique entre la solidarité précaire que constitue la dynastie et les solidarités structurelles permanentes que constitue la tribu, vous pouvez l'observer aujourd'hui dans les différents régimes politiques qui sont en place dans les différents pays arabes. Ça existe encore, bien que, évidemment, pour l'observateur extérieur, il ne voit que du noir. Il faut étudier les élites politiques, la constitution des élites politiques qui sont autour des ministères et des rouages gouvernementaux, les assises sociales et les origines sociales de ces élites politiques, pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Autrement dit, il faut faire une sociologie politique des classes au pouvoir, des groupes au pouvoir aujourd'hui, pour comprendre quels sont les mécanismes de solidarité permanente qui commandent l'exercice de ce pouvoir. Et vous voyez qu'il y a donc une relation constante et toujours, aussi loin que nous remontons dans l'histoire de toutes ces sociétés, entre le pouvoir politique que l'on vous décrit toujours généralement d'une façon purement chronologique en vous disant il y a telle dynastie qui règne pendant tant de temps et puis il y a l'autre qui lui succède, etc. On ne voit pas du tout ce qui se passe. Et pourquoi ? Et qu'est-ce qui explique ces changements, etc. Ce qui explique ces changements, c'est encore une fois la permanence des solidarités tribales face aux solidarités précaires que constituent les dynasties. D'autres solidarités précaires ce sont des mouvements qui peuvent apparaître à certains moments, comme les mouvements de la Futuwa, ou la les mouvements des Ayyaroun, au temps des Abbasides, autrefois. Il y a aussi les confréries. Il y a les madhahib, les écoles, qui sont plus ou moins durables. Il y en a qui ont disparu très vite, d'autres qui ont duré. Pourquoi ont-ils duré? Il faudrait l'expliquer. Mais il y en a peu, effectivement, qui ont duré. Et puis, il y a les sectes. Ce sont autant de solidarités précaires qui ont joué un rôle, tout de même, dans le développement politique et le développement général de ces sociétés. Bien, je vais m'en tenir là aujourd'hui et la prochaine fois je vous dirai d'autres choses.
Je vais au cours de Rosenberg, j'ai un ami.